à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle de Louis Pergaud. Louis Pergaud, instituteur, mort pour la France en 1915, très connu pour La guerre des boutons. Mais il a écrit aussi beaucoup de nouvelles relatives à la campagne. Et c'est l'une de ces nouvelles que je vais vous lire aujourd'hui, qui s'intitule « Le miracle de Saint-Hubert ». En ce temps-là, le Val des Hiboux, qui s'appelle maintenant la Grâce-Dieu, était un lieu sinistre où l'odeur roulait ses ondes torrentielles entre deux murs sombres de rocs que gardaient d'immenses forêts s'étendant du Val de la Loue au coude du Doubs. La sève, alors, généreuse et débordante, s'épanouissait en chênes géants, en hêtres colossaux, en bouquets puissants de charme, en poiriers trapus, en bouleaux énormes. Des ondes embaumées montaient des immenses et nombreuses clairières où la faux flamboyante de la foudre, alignant ses andins de feu, avait abattu et tranché, brûlé sur son passage, les troncs des géants séculaires qui narguaient sa puissance indomptée. Au creux des combes boisées, d'immenses étangs étalaient leurs faces calmes, ulcérés çà et là d'îlots herbeux. Des joncs aux plumets guerriers massaient leurs vertes cohortes en carrés menaçants sur les rives. Des feuilles de sagittaire trouaient la surface de l'eau comme un suprême appel de mains de naufragés à demi engloutis. Une fraîcheur puissante émanait des multiples sources d'eau vive, fleurie de pétales multicolores en été, de feuilles mortes en automne qui dévalaient les coteaux, flots turbulents à la majesté tranquille des grands lacs immobiles. Le soir, en longue théorie, des vols d'oiseaux s'abattaient sur les rives, puis s'enlevaient à grands fracas d'ailes pour disparaître aussitôt, tandis qu'en prudent cortège, s'espaçant par groupes, chacun à sa place favorite, les cerfs et les chevreuils s'alignaient aux plages des berges. De longs meuglements s'élevaient, se succédaient, se répondaient, puis à l'heure indécise du crépuscule, ramenaient le silence bourdonnant qui se mariait peu à peu aux vibrations des branches. Durant les nuits d'été, les écureuils au clair de lune donnaient parmi les branches des fêtes cabriolantes et joyeuses, tandis qu'en hiver, les puissants hurlements des loups propageait autour de la grande patrie sylvestre la crainte salutaire des blancs crocs d'ivoire, aiguisés de froid et pleins de faim, qui s'éloignaient, le cœur chavirant, tous les humains dont les incursions possibles eussent troublé cette belle quiétude sauvage. Et quand un vaincu tombait sous la dent d'une bête carnassière ou la serre d'une vorace ailée, rien n'ébranlait chez ses frères de race, soumis à la loi commune, inéluctable et terrible, leur sereine et farouche confiance en la vie. Il y avait cependant pour la forêt des jours d'effroyable angoisse. Il revenait après les grandes chaleurs par les clairs matins d'automne. Rien ne les laissait présager au dehors, mais la conscience obscure qui veille au cœur des bêtes les étreignait douloureusement quand le cours des soleils et des lunes ramenait la saison terrible. Tout était calme dans la forêt et les bêtes rôdaient par leur invisible chemin quand tout d'un coup, en amont ou en aval, de la grande voie déserte et sombre qui va du Cusancin au Dessoubre, un son de trompe ou de corne éveillait comme des génies malfaisants les échos mystérieux qui sommeillaient au creux des roches ou dorment au pli des combes. À ce signal, trop bien connu, une frayeur sans nom s'emparait du taillis. Les cerfs brandissaient leurs andouillers menaçants, l'œil plein de feu. Les chevreuils et les biches dressaient l'oreille, prêts à la fuite. Les renards précipitamment regagnaient leurs terriers, les marcassins leurs bauges, et les grands loups eux-mêmes, seigneurs incontestés du domaine, tremblant sur leurs pattes inlassables et leurs jarrets de fer, rassemblaient au fond des halliers, près de leurs rudes femelles aux yeux jaunes, les portées trottantes et joyeuses des petits, qui regardaient inquiets subitement les vieux mâles claquer des mâchoires, prêts à la mort pour défendre leur géniture en péril. Les lièvres, tapis dès l'aurore, se boulaient dans leur gîte, les grands corbeaux rassemblés échangeaient de cime en cime de brefs mots d'ordre mystérieux, les bandes de geais se concertaient en piaulement, les agaces filaient à grands cris, les griffes et les merles, après quelques sifflements d'entente, se taisaient, tandis que les écureuils curieux, moins apeurés que surpris, grimpaient tout de même aux fêtes de leurs arbres et, dissimulés derrière les boucliers de feuilles, scrutaient attentivement leur horizon déserté qui s'alourdissait de silence. Et bientôt, le vent seul, le grand vent dont les ondes telles des vagues invisibles qui passent courbent les têtes majestueuses des vétérans feuillus, disait et portait au loin la terreur de la grande cité forestière que la chasse du seigneur, accompagnée de ses valets et de ses chiens, allait ravager de cris, de hurlements et de meurtres. Derrière le chevreuil ou le sanglier, débuché, un jaillissement d'abois s'élevait, roulait, s'enflait, montait, grondait, passait en rafale, courbant et cassant les branches, éventrant les taillis, piétinant le sol. Malheur à celle-là qui avait son gîte ou son abri sur le passage de ce tourbillon vivant de hurlements et de haine. Éventrée par les limiers, déchirée par les crocs de la meute, dévorée en quelques bouchées ou écrasée sous les pieds des chevaux, pour être emportée par les valets, la bête, surprise, voyait la mort se dresser d'un seul coup devant elle, sans qu'il lui fût possible d'engager la lutte ou d'espérer la fuite. Aussi, quand la brise soufflant des lointains apportait aux réfugiés d'un canton tranquille les voix d'enfer de cet orchestre barbare, les grands corbeaux pèlerins des hauteurs et les vieux aigles suspendus dans la rue pouvaient voir en un indescriptible panique toutes les bêtes, d'un même élan, fuir et disparaître devant la chasse comme des nuages affolés devant le vent de l'orage. La terreur de l'homme survivait à ces incursions et bien après la saison de chasse, quand il s'abstenait de toute invasion meurtrière, les bêtes le fuyaient encore et le haïssaient, et qu'il fût sire au riche manteau ou cerf au saillon grossier, nul, même les grands loups, dont les mâchoires claquantes étaient pourtant de formidables défis, n'osaient résister à sa marche envahissante et à la menace de son regard. Il était cependant un homme que les bêtes du Val des Hiboux et des cantons voisins avaient appris à ne point craindre. Un mystère insondable enveloppait cet inconnu qui était comme tombé là un jour et y était demeuré. Nul ne l'avait vu venir. Nomade ambulant par les sentiers des Gaules, fixant enfin son errance, criminel sous le coup des lois d'une puissante cité, fuyant le châtiment ou cherchant dans le silence et la solitude l'expiation, doux, rêveur, misanthrope, chrétien halluciné ou panthéiste fervent, nul ne savait. Et ceux des villages qui ne connaissaient point son nom l'appelaient dans leur langage « Stucky », ce qui veut dire « celui-ci ». Il connaissait les plantes et il aimait les bêtes. Il vivait des racines et de fruits. Il n'avait besoin de rien. Cependant, de temps à autre, comme pour ne point perdre tout contact avec ses semblables, on le voyait, quel que fût le temps, une espèce de besace à l'épaule, s'en aller vers un village et quémander des vivres. Il allait, calme et grand, il portait les cheveux longs, comme un roi. Il avait le regard étincelant et droit, qui faisait baisser les yeux des vilains lorsqu'ils s'arrêtaient devant leur seuil sans rien leur demander. Tous lui donnaient. C'était un enchanteur ou un saint. C'était un saint, car depuis son arrivée dans les forêts, nulle bête n'avait péri dans les villages. Aucun fléau, grêle, orage ou incendie n'avait dévasté la contrée et tout prospérait aux alentours. La main des dieux était sur cet homme et leur protection salutaire s'étendait sur le pays. Une impression de bonté, de quiétude, de grandeur émanait de sa personne. Son regard exerçait une fascination naturelle. Pas un gamin ne lui aurait jeté une pierre. Les vieux et les vieilles inclinaient leur front sur son passage. C'était au temps où la religion de Christ était prêchée à Vespuccio par Féréole et par Ferjeux, et on se racontait aux vieillers, autour de grands brasiers des cheminées, les choses extraordinaires et merveilleuses accomplies par ces apôtres. On entendait leurs paroles, on espérait leurs envoyés. En était-il celui-là qu'on ne connaissait point et qui était bon ? Et qui était grand. Et les paysans penchaient lentement vers le culte nouveau, tandis que les seigneurs, issus de leur rang, peut-être en secret déjà convertis, gardaient encore, et jalousement semblait-il, pour les divinités gauloises, assimilées aux mythologies romaines, cette affection rituelle et ce culte de parade qui est l'indice des religions à leur déclin. Stucky s'était installé dans la grotte des Boujottes, à 2 heures de marche du Val des Hiboux. Sa retraite s'ouvrait dans l'impasse naturelle d'une combe, au bout d'un corridor de hêtres et de chênes, au cœur d'un immense rocher perdu dans les grands bois. Ce rocher se dressait comme un donjon formidable sur le mont Travers et semblait surveiller dans un silence majestueux, d'un côté, l'immense cuve des combes que dessinaient au couchant les chaînons escarpés des craies du Jura, et de l'autre, menaçait le hérissement formidable de fûts et de pics que les forêts dominantes massaient dans le soleil levant. Une vaste clairière, taillée en plein cœur de la forêt par quelques faucheurs surhumains, s'étendait derrière le roc de Gaudry. Ainsi nommait-on ce donjon de pierre sabré d'éclairs, ce pic pelé comme un vieux crâne qui restait là quand même, menaçant et sauvage, impassible, battu des vents, lavé de pluie, fouetté de neige, ouaté de brume, nimbé d'aurore ou brûlé de soleil. Les bêtes affectionnaient particulièrement cette éclaircie, d'où l'on pouvait, sous l'égide protectrice de ce rêve de pierre, à l'abri des ramures épaisses, écouter et flairer de très loin les approches ennemies. Elle avait vu en effet la clairière entre les torses noueux de ses arbres, sous les ogives de feuillage en été, ou par les illuminations féeriques des clairs de lune, les jeux et les batailles d'amour de presque toute la gente de la forêt. Des lièvres vaillants et hardis, des goupilles oublieux de la prudence, des cerfs dédaigneux de l'homme. Or, celui qui était venu parmi eux était resté immobile et muet devant les grands animaux. Il avait jeté du pain aux oiseaux, qui sont de moins méfiants, et donné des noisettes aux écureuils, qui sont naturellement curieux. Et les saisons avaient passé, et les jours étaient venus peu à peu où les bêtes de la clairière et du canton, et les voyageuses égarées, n'avaient plus suivi sa démarche d'un œil inquiet et d'un pied frémissant. Stucky ne parlait jamais aux bêtes. Il n'avait rien à leur confier, sinon qu'il ne leur voulait pas de mal et qu'il les aimait. Et cela, ses yeux bons, son regard limpide, son front calme, la lenteur grave et noble de ses gestes le disaient surabondamment. Qu'aurait-il pu, dans le misérable langage des hommes, qu'il savait parler sans doute, leur dire de meilleur et de plus utile ? De se méfier des autres humains ? Elle le savait. Les prévenir de leur présence ? Elle les vantait mieux que lui et de plus loin. Tiercelin et sa horde ne veillaient-ils pas aux lisières et le croassement d'alarme faisait dresser les oreilles et palpiter les narines au moindre indice dangereux. Ils se comprenaient et s'aimaient. Or, cette année-là, que rien ne fixe dans le temps, avait été une année de grande pluie, la terre mouillée, détrempée, imbibé comme une éponge grasse, conservait, marâtre pour les dénoncer aux ennemis, les traces des bêtes. Les saisons avaient été désastreuses, les couvées n'avaient point réussi, les nichées avaient péri, et dans les portées des cimées, les quelques sujets plus vigoureux qui avaient résisté restaient malgré tout malingres et chétifs. La forêt était en deuil et se dénudait. Les vents qui passaient en rafales, tels des hordes dévastatrices, harcelant durement les ramures, déchiquetant avant l'heure les frondaisons, ne parvenaient point à sécher le terreau noirâtre des sous-bois refroidis. Une odeur de décomposition végétale, subtile et forte, comme une immense vague de fond, se dégageait lentement de la glève, se répandait par degrés, montait, envahissait, submergeait peu à peu tout le grand continent forestier. Et c'était comme une main mystérieuse et fantomale qui venait peser lourdement sur les vies suspendues des végétations pourrissantes, sur les âmes désempérées des êtres pour annoncer la mort prochaine de l'année et la venue des temps maudits. Et les bêtes étaient inquiètes. Elles venaient à leurs heures respectives, plus souvent encore que d'habitude à la clairière de Stucky, et le regardaient obstinément comme si elles eussent voulu demander aux solitaires qui était de la race des méchantes et maudites, une efficace protection contre ceux de sa gente. C'était l'époque terrible des grandes incursions humaines, des chasses féroces, des bacchanales déchaînées, des boucheries sanglantes, qui, selon les lunes, revenaient à intervalles à peu près égaux pour annoncer la mort de ceux qui seraient poursuivis et faire goûter plus âprement aux survivants la joie de vivre. La forêt, en proie aux pluies d'automne, était sombre et triste. La chasse au seigneur avait passé la veille au lever du soleil. les trompes et les cornes avaient soufflé leur chant d'épouvante, et les dieux mauvais de la forêt, joyeusement réveillés de leur sommeil de pierre, avaient répété de tous côtés à l'infini l'appel farouche. Puis, au galop de la meute qui les menait, le flux des bêtes du canton du Val des Hiboux avait passé en rafale devant la clairière de Gaudry, déserte et silencieuse comme une nécropole abandonnée. Bientôt cependant, l'imminence du péril faisait se disloquer la grande harde, les bêtes les plus faibles se dérobant peu à peu au hasard des inspirations, mettant à profit une éclaircie, une saute de vent, pour selon les ruses millénaires de la race ou leur personnelle expérience, fuir à toute vitesse dans une direction différente, ou mieux encore, embrouiller leurs traces afin de trouver le temps de se giter un peu plus loin aux alentours. Le soir, avec la venue des ténèbres, les fourrés avaient frémi. Des pas légers comme des glissements avaient passé, des frôlements avaient couru, de larges prunelles dans l'ombre s'étaient allumées comme des étoiles et toutes avaient pèleriné en silence vers la clairière de Gaudry, car après la grande chasse de l'homme, il y avait trêve dans la forêt et les bêtes, elles, ne chassaient point. Les cerfs et les chevreuils, ivres d'espace et de fuite, passaient sans les tondre à côté des feuilles de ronces. Les lièvres n'osaient s'aventurer en plaine, les sangliers grognaient de colère sans trop savoir pourquoi, les loups en oubliaient leur faim. Une terreur commune, pesant sur tous, en faisait des alliés momentanés. La fièvre de la peur avait nourri tout le monde, et dans chaque tribu, les familles dispersées se rappelant par le cri convenu, cherchaient à évoquer au fond de leur mémoire, pleine de brume et de tumulte, les images de ceux qu'elles ne trouvaient point au rendez-vous. Le cimetière étroit et pâle de la jeune lune rentrait au couchant dans une gaine indistincte de brouillard. La paix allait régner sur la forêt, la paix que le soleil ébranle et que la lune pleine trouble aussi quand sa lumière équivoque vient brouiller aux heures crépusculaires les mystérieuses frontières du jour et de la nuit. Une grande frayeur cependant étreignait toute la forêt. Le vent s'était levé et sa protestation mugissante courait de chaîne en chaîne, ébranlant le cœur profond des sombres vétérans qui se mettaient à bramer de toutes les voix de leurs branches et hurlaient à l'envi contre l'injure et la méchanceté de l'homme. La nuit se tassait. La clairière, pleine d'yeux, semblait un parterre de fleurs d'or portées par des tiges invisibles. L'odeur de la terre mouillée parlait de deuil et de mort. Un vieux loup soudain hurla. Il manquait un de ses petits, disparu dans la rafale du matin, et tous comprirent. Stucky, à genoux, prosterné sous la nuit, avait l'air d'adjurer le chêne géant campé au bout de la clairière, dont la sombre masse et l'ombre lourde, barrant le ciel étoilé, semblaient se dresser comme une protestation formidable des dieux morts contre les dieux triomphants. Tout autour de l'homme, immobile, silencieuse, lourde d'une émotion écrasante, les bêtes subjuguées attendaient quelque chose qui ne venait pas. Une angoisse plus lourde encore les étreignit. Elles flairèrent le malheur, elles éventèrent la mort. Le lendemain, en effet, contrairement aux prévisions habituelles, la trompe retentit parmi les bois du Levant et ceux de Gaudry, mussés dans leurs repères, purent entendre au large, dans le vent propice, monter et baisser les rauques appels des cavaliers, les hennissements des étalons, et suivre de l'oreille au loin les abois ondoyants et multiples, âpres, aigus et soutenus, prolongés, des meutes frais découplées ravageant tout sur leur passage. Et ce fut du côté des étangs du vent de bise que souffla le lendemain le chant de mort, et à l'aube qui suivit, les trompes cruelles déchirèrent le silence matinal dans les rochers du midi. Et chaque jour maintenant, la horde envahissante des grands barbares, chasseurs et chiens, venus d'un point nouveau de l'horizon pathétique, traversaient le canton de Gaudry, transperçaient, taraudaient en tous sens les fourrés et semaient l'épouvante et l'horreur parmi les alliés touffus et les taillis inviolés de ce grand repaire sauvage. Maintenant, tous les soirs, à la clairière fatidique, les bêtes survivantes se réunissaient, silencieuses, efflanquées, fiévreuses. Elles ne se lamentaient plus, mais se contentaient de regarder de leurs prunelles profondes, élargies d'épouvante et embuées d'étonnement, leur ami muet, le solitaire qui pleurait et priait au centre de cette chapelle de feuillage, sous les piliers vivants et noueux des grands chênes, dont les rameaux, ainsi que les bras multiples se tordaient de désespoir et de rage aux lamentations mugissantes du vent. Depuis longtemps, Stucky n'avait pas revu les humains, mais un jour, à l'heure sinistre où les fanfares sonnaient dans son canton leur aubade de meurtre et de sang, il s'était résigné à descendre vers les villages. Selon son habitude, il n'avait pas proféré une parole, mais la limpidité coutumière de son œil, troublé de flammes d'inquiétude et d'éclairs d'orage, interrogeait les paysans. Ils avaient dit « C'est un puissant seigneur de très loin, de pays de bise et de neige, qui est venu en ambassade et à qui l'on donne des fêtes. Il aime la chasse passionnément. Aussi tous les jours, nos sires rassemblent leurs meutes et leurs équipages et le guident à travers nos bois. » Stucky savait maintenant que le comte Hubert chassait dans le pays, qu'il chasserait le lendemain et encore à l'aube suivante, et que les bêtes, ses compagnes et ses amis seraient pour de longs et terribles jours voués aux embûches, aux traques éperdues, aux fuites désespérées, à la souffrance et à la mort. Et il pleura. Toute la forêt était agitée du frisson de la fièvre. Les bêtes, au moindre bruit, frissonnaient, s'affolaient et fuyaient. Tous les soirs, à l'heure du rendez-vous dans la clairière, il en manquait de nouvelles. Presque tous les petits étaient morts, tués par les traits des humains, écrasés par les chevaux, déchiquetés par les chiens ou épuisés par la fatigue et par la maladie. Les nuits semblaient courtes, les instants fuyaient, rongés par la hantise de la lumière. Tous et toutes dans les halliers, en proie à de courts sommeils hallucinés, appréhendaient l'heure blanche où le couvercle des ténèbres semble à l'aurore se dévisser de l'horizon. Les grandes forces semblaient maléfiques et hostiles. La terreur et la mort régnaient. Ce matin-là, comme le soleil dardait ses premières flèches sur le rôle pelé de Gaudry, l'appel des trompes et des cornes résonna dans la grande cuve du couchant et les aboiements joyeux des chiens se mordillant et s'excitant pour la chasse firent frémir toutes les bêtes de la futaie. Derrière les grands chiens découplés qui donnèrent bientôt de la voix, des bordées d'abois ne tardèrent point à s'élever, rauques d'abord et hésitantes, puis plus accentuées, plus régulières, plus éclatantes. Et bientôt, ce fut la fanfare effroyable de 100 gueules hurlantes dans laquelle de temps à autre se détachait le jappement plus puissant et plus mâle d'un conducteur de bande ou l'appel d'un piqueur. Le taillis vierge qui hérissait ses haies épineux pour barrer le passage et défendre son mystère fut haché par cette foule en délire, battue, foulée, piétinée, déchiquetée, tandis qu'une harde de cerfs découverte filait dans le vent à une allure désespérée. Tout tremblait dans leur sillage. La terre battue, martelée, semblait grommeler sous leurs pas. Les branches, enfin, giflaient les intrus, les épines les mordaient, les clématites faisaient trébucher les chevaux et rouler les chiens, mais rien n'arrêta la charge infernale, le furibond élan de mort, et derrière le trajet suivi qu'indiquait une large trouée, tout redevint silencieux, cependant que là-bas, dans les cantons étrangers, les trois grandes bêtes traquées, bientôt seules poursuivies, menaient au loin la meute enragée. Une anxiété profonde étreignit bientôt les autres bêtes qui avaient pu se dérober une à une de la colonne fuyante, renards, lièvres, sangliers et loups. De nouveau grandit l'immense fleuve tumultueux roulant ses ondes de cris, ses cascades d'abois, son écume de chants de cornes et de trompes. Et dans un éblouissement de vitesse, de lumière et de son, le formidable cortège repassa par le pays, traçant un nouveau et large sillon dévastateur pour disparaître aussitôt, ravageant et dénudant derrière lui la croupe verte et jaune d'un coteau buissonneux. Cela durant un temps que nul n'a mesuré, et de nouveau le bacchanal revint plus ronque, plus ample, plus terrible. Les trois bêtes poursuivies apparurent haletantes, fumantes, splendides de peur et d'énergie, tout entières crispées dans un vertige de fuite. Mais subitement, le faon épuisé, les pattes raidies, s'arrêta. Le cerf et sa biche se retournèrent pour l'encourager à la lutte et l'exhorter à la fuite. Mais c'était bien fini. Le jeune animal, moins résistant que les deux autres, fourbu, avait donné tout son effort. Ses articulations gonflées refusèrent tout service. Il se mit à branler sinistrement. À ce triple appel de détresse, Stucky, dans sa grotte, comprit que les temps étaient proches et, gravissant le ravin de son rocher, la croix de bois à la main droite et les yeux au ciel, il apparut au seuil de la clairière. Les regards des trois bêtes traquées imploraient l'homme accouru, tandis que la meute inlassable se rapprochait d'instant en instant. Le cerf et la biche semblèrent prendre le solitaire à témoin de leur impuissance et commettre à sa garde la jeune bête épuisée, puis affolés eux-mêmes devant l'imminence du péril, se renfoncèrent de nouveau en un vertigineux élan parmi les profondeurs du taillis. Soudain, dans un éblouissement de soleil, la chasse parut, formidable, hérissée, frénétique, toute la meute d'abord, puis la chevauchée derrière, des rutilements d'étoffe et des éclairs de métal. Et la meute affamée, ivre de vitesse et de bruit, assoiffée de sang, se rua de tout son élan sur le groupe immobile que formaient l'homme et la bête. Tous deux, sous le choc, furent culbutés, piétinés, meurtris. Puis les crocs et les griffes indistinctement s'enfoncèrent dans les chairs vivantes et Stucky, comme éveillé d'un songe, violent et sauvage, frappa hardiment à grands coups de sa croix de bois avec des gestes si terribles et des regards si furibonds que les bêtes méchantes qui s'étranglaient reculèrent, hurlantes de douleur et d'effroi. Sur leur monture hennissante, aux naseaux blancs d'écume, les sires, eux aussi, ivres du vertige de la vitesse et du désir de la mort, arrivaient enfin à la clairière, et ils virent, avec étonnement, entre les groupes hurlants, cet homme demi-nu, qui, sans merci, frappait leur chien à côté de la proie éventrée du faon dont les yeux grands ouverts ruisselaient des larmes de la mort. « Que veut ce voleur ?» trancha la voix méchante et courroucée de l'un d'eux. « Qu'on l'attache et qu'on le fouette, et qu'on le pende haut et court à la maîtresse branche de ce chêne. » En même temps, sa lourde cravache levée s'abattit sifflante sur le visage mordu et ensanglanté de Stucky. Digne et sévère, et sans un mot, le solitaire baisa les naseaux du faon mort, redressa sa haute taille et de son œil royal regarda les groupes ennemis. Sa croix était restée à terre. Il la ramassa en silence, puis, de son même pas grave et lent, le regard plus sombre et plus attristé que jamais, il retraversa la clairière devant les hommes et les chiens, sans qu'aucun, parmi les valets, malgré l'ordre jeté par le maître tout-puissant, osa porter la main sur lui. Cependant, les piqueurs, ayant écarté les bêtes dévorantes, emportèrent au loin, en sonnant de la trompe, le butin de leur chasse, et le silence par degrés sembla panser encore une fois la forêt meurtrie. Le soir tombait majestueux et lent. Le disque rouge du soleil empourprait les nuages légers du couchant. La cuve que dessinaient les collines semblait pleine de sang. Le silence de la vesprée paraissait se dissoudre dans l'onde bourdonnante du crépuscule. L'ermite était remonté à la clairière. Sa main droite tenait toujours la croix rustique, nouée d'herbes et de lianes, qui le matin avait été impuissante, et les lèvres de l'homme murmuraient quelque chose qui pût se traduire ainsi. « J'ai manqué de foi, Seigneur, et le petit est mort. Et que vais-je répondre au cerf et à la biche quand ils viendront me réclamer celui qu'ils avaient commis à ma garde ? Père Tout-Puissant, je crois en toi, et je t'implore, car il est écrit que je dois vaincre par toi et que je triompherai en ton nom. » Les yeux de l'homme flamboyaient dans sa face décharnée. Il faisait chaud, il faisait lourd. Le vent du sud subtil et léger se faufilait par les coulées des branches tristes et mornes. Une à une parurent les bêtes du canton qui vinrent s'asseoir à leur place accoutumée entre les buissons auprès des grands arbres de la clairière. Dans le lointain, on entendit le bramement d'appel du grand cerf et de la biche réclamant leur faon. Au milieu d'un profond silence, le couple chassé le matin apparut entre deux massifs, fouillant la clairière de ses yeux affolés, demandant vainement à tous les coins d'ombre son petit dévoré le matin. Stucky tomba à genoux, la croix brandie. En face de lui, au fond de l'éclaircie, le grand chêne centenaire dressait sa masse. Alors, sans qu'on sût pourquoi, tout d'un coup, au milieu de la nuit dense et des ténèbres lourdes, on vit le grand chêne s'illuminer. une corde de feu, un câble de lumière germé de la terre, accrochait son pied. Une émotion immense, une transe surnaturelle étreignait les bêtes et le solitaire. Dieu l'écoutait, Dieu l'exauçait. Une confiance invincible et muette se riva à toutes celles qui l'entouraient. Un souffle chaud embrasait la clairière. Quelque chose de profond, de mystérieux, de plus grand que le monde pesait sur tous. De l'inconnu surnaturel et divin se brassait là. Le grand chêne païen qui barrait le ciel semblait se réconcilier avec Dieu. La biche vint s'appuyer à l'homme et le grand cerf, lui, marcha vers le chêne. Quelque chose de plus fort que sa volonté, de plus fort que la crainte de la meute, de plus fort que tout, le poussait, le menait vers cet inconnu qu'il sentait bienfaisant. Toutes les bêtes dardaient sur la croix de feu, leurs yeux ardents. Aucune n'avait l'air d'entendre les hurlements infernaux des meutes approchant suivant la piste de l'une d'elles. Le solitaire se tourna de côté, sa croix sombre toujours brandie vers le ciel, tandis que son doigt désignait le grand chêne et le cerf lumineux, et la biche près de lui se tint elle aussi immobile, fixant son mâle illuminé. Un silence religieux pesa sur la clairière. Pas une bête ne bougeait. Comme une rafale de tempête ou un sabbat de damnés, l'aboi formidable et menaçant reprenait, gonflait, grondait, emplissait la nuit et le silence. Et les chiens de tête, les grands molosses aux crocs terribles, aux pattes d'acier, arrivèrent. La chasse se tut. Les chevaux par derrière apparurent et se câblèrent. Les valets et les piqueurs qui les montaient tombèrent sans souffle, la poitrine et la tête sur le col de leur monture. Et le comte Hubert, enfin, émergea du ravin profond. Ses yeux flamboyants de passion sauvage virent le chêne de feu devant lequel le grand cerf miraculeux, debout, immobile, érigeait lui aussi la croix de feu. Il vit les yeux des bêtes qui flamboyaient et formaient d'un bout à l'autre de la clairière une double haie lumineuse et vibrante. Et cette biche immobile, et cet homme maigre et grand qui l'avait insulté le matin. Son regard un instant erra de la croix de lumière de la bête à la croix de ténèbres de l'homme. Il sentit dans sa poitrine un embrasement. Son cœur flamboya comme une torche. Quelque chose de plus violent que sa volonté de barbare l'étreignait sur son étalant cabré derrière ses chiens affaissés et ses piqueurs muets. Il sauta à terre, bondit par-dessus la meute, et entre la biche immobile et l'homme sombre, devant la nature et devant la croix, il tomba à genoux, la face prosternée, criant de toute sa foi neuve, sauvage et vivace, « Seigneur, je crois en toi. » Ainsi finit l'histoire du miracle de Saint-Hubert, tel qu'il m'a plu de la rêver dans un décor cher et familier, et tel que j'aimerais qu'on la racontât, quelques soirs d'hiver, dans mon pays.